Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssacha.
Le vendredi matin, vous le savez, maintenant nous parlons de conflits de loyauté dans un contexte de biculturalité avec Eva Barra, les technocoaches en fusion culturelle. Merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio pour nous apporter tes éclairages, Eva Barra. On rappelle que l'ethno-coaching est une discipline axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité, n'est-ce pas ?
Totalement. Bonjour Aïssa, merci beaucoup pour ton accueil et pour ces temps qu'on partage ensemble. Merci aux auditeurs pour leur retour et leur présence de plus en plus nombreuse.
Alors, nous allons parler de certains objets de la vie quotidienne qui peuvent être source de conflits, de loyauté. Il y en a dans chaque pièce, hein, tu dis.
Oh oui.
Aujourd'hui, nous allons commencer par les toilettes, Eva Barra.
Totalement. En apparence, on pourrait croire, Aïssa, que les toilettes, bon, c'est censé être une des pièces les plus petites d'un logement.
Ouais.
Donc, Eva, comment tu veux aller créer un conflit dans cette pièce-là?
Surtout qu'on est tout seul, donc, du coup.
C'est exactement ça. Comment on va se disputer dans des toilettes? Explique-moi. Eh bien, on va essayer d'expliquer ça. Alors, en effet, dans les toilettes, on est censé être seul, en tout cas. Par contre, il y a quand même des conflits, et nous, on est vraiment sur ce qu'on appelle des conflits identitaires et des conflits, justement, de pluriculturalité. Donc là, comme tu l'as expliqué, justement, l'ethno-coaching, c'est l'art d'accompagner les personnes qui sont à la jonction de plusieurs cultures. Eh bien, même dans les toilettes, nos cultures peuvent s'entrechoquer. Et en effet, on a différents types de toilettes. Donc, je pense qu'on a tous connu, ce qu'on appelle d'ailleurs, il y en a encore en Occident, pour ceux qui vivent en Occident, il y en a encore en Occident sur les aires d'autoroute par exemple, mais également sur le continent africain dans certaines zones, parce que c'est pas partout, mais on retrouve encore ce qu'on appelle les toilettes turques. Tu vois l'illustration.
Les toilettes où t'as peur d'entrer, voilà. Là.
c'est totalement ça, voilà. On parle de toilettes turques, mais il faut savoir que c'est des toilettes... on appelle les toilettes turques en Occident, mais en fait c'est les toilettes les plus anciennes du monde, on va dire.
Les toilettes et traditionnelles, quoi.
C'est totalement ça. Moi, je préfère le terme traditionnel, mais c'est vrai que dans la conscience collective occidentale, ouais, ça s'est arrêté sur les toilettes turques. Eh bien, il faut savoir que ces toilettes traditionnelles, ils ont un bénéfice qu'aujourd'hui, justement, on perd petit à petit. Donc, il y a à nouveau un conflit culturel dans le fait que les toilettes traditionnelles, on est en position accroupie. Ouais. Les toilettes dites occidentales, les toilettes hautes, eh bien, justement, on est en position assis dans un canapé ou assis sur une chaise. Eh bien, rien que ça, c'est déjà un conflit. Le corps n'est pas dans la même position. Donc en fait, laquelle des deux positions est la mieux pour le corps? Aujourd'hui, quand on construit, pour ceux qui construisent leur maison, leur appartement, on leur pose même plus la question, vous voulez des toilettes traditionnelles ou des toilettes hautes? On pose presque plus la question, c'est automatique.
Et à la c'est fois, une forme de luxe, ça aussi. C'est des toilettes de luxe, on va dire, entre guillemets, en fait.
C'est totalement rentré dans la conscience collective que justement les toilettes hautes sont mieux que les toilettes basses, en fait. Si on part sur ce principe-là, à la fois, eh bien, au niveau médical, il est prouvé que la position assise pour aller aux toilettes, la position assise comme sur une chaise, justement sur les toilettes hautes, n'est pas la plus appropriée pour notre métabolisme. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on part dans une on a l'impression d'avoir évolué en passant des toilettes basses aux toilettes hautes, sauf qu'en fait, eh bien, on met notre métabolisme en difficulté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de créer de plus en plus? Je sais pas s'il y en a dans ton entourage, mais on trouve dans les toilettes des personnes un sorte de rehausseur pour mettre les pieds.
Ouais, même pour les enfants, il y a le rehausseur.
C'est ça. Eh bien, justement, on nous dit que c'est un marche-pied pour les enfants.
Ouais.
Tu peux arriver dans des logements où il n'y a pas d'enfants, tu vois un rehausseur dans les toilettes. Enfin, tu vois, une sorte de marche-pied dans les toilettes. Eh bien, en fait, c'est pour compenser le fait qu'on soit assis.
D'accord.
Donc, en fait, plutôt que d'être au sol et d'avoir les pieds fléchis, eh bien, on se met en hauteur et on met un marche-pied pour que nos genoux soient au-dessus de notre bassin.
D'accord.
Pour que notre côlon soit dans une position idéale pour la libération.
Mais non, pas du tout.
Je suis contente d'avoir. Je suis contente d'avoir transmis quelque chose ce matin sur ce sujet-là. C'est super important, justement, de suivre l'évolution, certes, mais surtout de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Si c'est évoluer pour évoluer, bof, à la fois, cet exemple-là montre bien que, eh bien, dans cette pseudo-évolution, eh bien, on n'a pas regardé clairement le besoin physiologique. Et qu'aujourd'hui, on est presque dans une régression. Mais on ne régresse pas totalement puisqu'on reste sur ce qu'on a déjà créé. Donc, on va pas casser tous les toilettes qui existent déjà. Par contre, on réadapte aux avantages de l'ancien. Donc ça, déjà, c'est un premier conflit qu'on essaye de résoudre aujourd'hui parce qu'on se rend compte justement que le corps retient pas mal de toxines parce qu'il n'est pas en capacité de libérer correctement.
Ouais.
Et il y a un autre conflit. Bon.
Là, c'est
il y a un autre conflit. Il y a quoi?
Un conflit plus hygiène, enfin, concerne plus l'hygiène en fait, c'est ça?
Exactement, dans cette pièce-là, l'hygiène est, a toute sa place et à la fois, eh bien, après la posture, vient. Eh bien, le nettoyage. Une fois qu'on a fini ses besoins, comme on dit, même les meilleurs mets, c'est là où ils finissent leur voyage. Une fois qu'on a fini ses besoins, une fois qu'on a libéré le corps, eh bien, comment est-ce qu'on se nettoie? Là, à nouveau, il y a un véritable conflit. Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise de l'eau? Est-ce qu'on utilise du papier toilette?
Quand les deux, grandi, ou les deux, il y en a, c'est les deux.
Où est-ce qu'on utilise les deux? En tout cas, il s'agit justement, encore une fois, tous ceux qui ont grandi à la jonction de plusieurs cultures doivent se poser cette question-là. Comment je fais? Et si j'utilise de l'eau et que c'est dans mes habitudes et que je ne sais faire qu'avec de l'eau, comment je fais quand je suis chez des personnes?
C'est vrai que quand on prend l'habitude, quand on a grandi dans une famille où on utilisait l'eau, après on peut aussi peut-être ressentir, c'est le cas de certaines personnes, que le papier n'est pas suffisant en fait, que ça nettoie pas suffisamment bien.
Exact. C'est très bien que tu le précises parce que justement ça rentre dans notre, dans nos importances, ça rentre dans notre normalité. Donc une personne qui n'a pas le même mode de fonctionnement que nous n'est peut-être pas propre, alors que ça veut rien dire en fait. Enfin. Alors que cette personne-là, dans son éducation, dans sa méthode éducative, eh bien, on lui a appris à utiliser le papier et qu'avec le papier, on était propre. Donc, on a chacun nos vérités. Maintenant, il s'agit... Ok, imaginons que moi, j'ai appris à me nettoyer avec de l'eau et que c'est ma norme. Et que... On parle des toilettes. Donc, imagine, je me mets en couple avec quelqu'un et que cette personne-là, dans son éducation, c'est du papier. On a dans nos toilettes, qu'est-ce qu'on met?
Qu'est-ce qu'on met?
Ouais,
on peut mettre les deux.
On arrive à avoir un conflit même dans les toilettes.
Après, il y a aussi des interdits. Par exemple, moi, chez moi, on me disait souvent, on parle pas quand on est dans les toilettes, on chante pas quand on est dans les toilettes. Et aujourd'hui, on rentre avec son portable dans les toilettes.
Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... de superstitions autour des toilettes. Et il y a beaucoup de réglementations autour des toilettes. Selon les différentes confessions, il y a une représentativité justement des toilettes qui font qu'on a un certain comportement à avoir en y allant, en sortant, etc. En Occident, eh bien, il y a les normes d'hygiène qui se poursuivent forcément. Enfin, en Occident et partout d'ailleurs, il y a les normes d'hygiène. Mais au-delà de ça, justement, il n'y a pas ce truc-là du verbal et du non-verbal. Et ça peut choquer des personnes. Ils disent, attends, il est sérieux, il est au téléphone, aux toilettes. Non, mais il ne me respecte pas. Je l'appelle, il me parle, il est aux toilettes.
Et ça, on le fait tous. Hein.
Bon, il y en a qui sont plus silencieux que d'autres.
En tout cas.
On va dire ça. Mais c'est vrai qu'encore une fois, eh bien, une personne peut se dire que je ne me sens pas respectée parce que mon interlocuteur m'appelle quand il est aux toilettes. Ou me parle quand il est aux toilettes. Pour moi, c'est un manque de respect. Mais en fait, pour moi, non. En fait, les toilettes, c'est comme si c'était dans mon canapé. Dans tous les cas, tu ne me vois pas. C'est comment?
C'est ça.
Avoir des conflits même dans les toilettes. Donc encore une fois, il s'agit vraiment de poser son cadre et quand on est dans le même foyer, justement de mettre des mots comme tu as expliqué tout à l'heure, justement, il est possible d'avoir les deux. Encore faut-il le verbaliser. Il y a des personnes qui par exemple sont dans cette position-là et par exemple vont mettre au boulot une bouteille d'eau.
C'est quoi ce truc?
Mais oui, mais la femme de ménage elle les jette. Bah oui. Il n'y a pas eu de communication en fait. Elle ne sait pas que tu en as besoin. Pour elle, ça n'a rien à faire là. Donc dans un couple, bah forcément, il faut mettre des mots. Si on veut l'amener, enfin, si on veut amener cette pratique-là sur son lieu de travail, bah, c'est important de mettre des mots aussi. Ou sinon, tu prends ta bouteille dans ton sac et tu l'emmènes à chaque fois avec toi. Et de plus en plus, eh bien, un peu comme justement ce rehausseur qu'on met sous nos pieds pour revenir un petit peu au prérequis des toilettes traditionnelles, eh bien, de plus en plus est en train de se normaliser les lingettes intimes. Donc, je trouve que c'est une médiation.
Où est-ce qu'on les jette aussi, ces lingettes intimes ? Ah oui, il y a le problème aussi de tout ça.
Ah non, mais oui, après, du coup, il y a les bouchons, il y a tout ça, en effet. En tout cas, je trouve que la société est en train de... Enfin, la société de consommation, hein, principalement, est en train de chercher en tout cas un entre-deux, entre justement l'eau et le papier steak. Donc, ils ont pensé aux lingettes humides. Maintenant, il faut en trouver des biodégradables, enfin, qui se détruisent de la même façon que le papier toilette, peut-être, je ne sais pas. Il y a également les douchettes.
Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est très hygiénique, ça, les douchettes ?
Alors, justement, c'est là où se positionne, pour le coup, là, ça va être, c'est plus des médecins qui se positionnent sur ce registre-là et qui parlent du fait que l'eau, au niveau de la toilette intime, c'est pas forcément bénéfique. Quotidiennement et à chaque passage aux toilettes, parce que il parle justement du fait de détruire la flore vaginale qui est importante et qui est nécessaire. Maintenant, aujourd'hui en tout cas, l'industrie est en train de se développer dans ce registre-là.
Ouais.
Et quand on en parle justement à nos mamans, parce que elles nous expliquent mais va là-bas, depuis la nuit des temps, on utilise de l'eau. C'est quoi votre histoire ?
C'est ça.
C'est quoi votre histoire ? Encore une fois, faut resituer. Utiliser que de l'eau, en Afrique, dans un pays où il fait chaud, où les femmes sont en pagne, c'est quelque chose. Utiliser de l'eau en Occident, où on est souvent avec des dessous, avec un pantalon par-dessus, c'est pas la même chose. Donc, faut souvent essayer de remettre dans leur contexte. Donc, dans ces cas de figure-là, moi, quand on me demande mon avis, je préconise les deux. Ok, très bien. Si c'est important pour elle, pour lui, d'utiliser de l'eau, eh bien, c'est important qu'il nourrisse son sentiment de se sentir propre. Maintenant, eh bien, est-ce que on peut lui dire de faire attention aussi à bien se sécher ?
Ah ouais, c'est vrai que ouais.
Donc on arrive sur un entre-deux. Parce que justement, ce qui peut créer de la macération, etc., c'est le fait de rester humide, en fait, principalement. Donc, il ne s'agit pas de dire que telle culture est prioritaire sur telle culture, est plus importante et plus avancée, plus développée, comme j'ai expliqué avec les toilettes basses. Ce qui existe a une raison d'être. Maintenant, c'est important de le remettre dans le contexte et dans l'environnement. Si on change d'environnement, c'est important de prendre en compte ces évolutions-là qui font que il n'y a pas le soleil qui est à 40 degrés qui va te sécher en 2 secondes. Donc, comment est-ce que je remplace l'élément soleil ? Je fais en sorte de me sécher. Donc, dans la mesure du possible, avoir les deux, ça peut être quelque chose de positif.
Absolument, absolument. Et Barbara, je rappelle que tu es ethno-coach en fusion culturelle. Tu peux nous en rappeler un petit peu le principe et nous dire où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, Eva Barra ?
Totalement. Alors, l'ethno-coaching, c'est vraiment une activité que j'ai créée en partant du constat que deux personnes qui vivent exactement la même situation, mais s'ils n'ont pas la même histoire, ils n'auront pas les mêmes ressources autour d'eux. Et ils n'ont pas les mêmes méthodes pour arriver à leurs objectifs de la même façon qu'ils n'ont pas les mêmes freins, les mêmes blocages. Donc, l'ethno-coaching, c'est l'art d'écouter l'autre dans tout ce qu'il est, en fait. D'écouter son histoire, d'écouter sa culture, sa religion. Et avec tous ces éléments-là, de pouvoir créer avec lui
un équilibre.
Un équilibre, mais surtout une feuille de route pour qu'il atteigne son objectif, en fait. Mais pour qu'il l'atteigne vraiment avec tout ce qu'il est et tout ce qui est important pour lui. Comme tu l'as bien compris, le choc des cultures est très présent, le conflit de loyauté est très présent, donc il s'agit de créer un chemin sur mesure pour qu'il respecte toutes les valeurs qui sont importantes pour lui et à la fois qu'il atteigne son objectif.
En tout cas, ça se passe sur les réseaux sociaux où on peut te trouver partout, Eva Barra.
Totalement, exactement, donc je suis présente sur les réseaux sociaux, Eva Barra Coach, également pareil sur le même nom, evabarracoach.com, donc vous pouvez prendre un rendez-vous pour un entretien ou intervenir à l'un de mes ateliers ou conférences.
Merci beaucoup Eva Barra, ça a été un plaisir. On se retrouve, j'espère, vendredi prochain.
Avec grand plaisir, Aïssa.
Salut Eva.
Salut.